Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Ouf, le moment qu'on a fouetté le Messie, on voit que on l'a abusé physiquement, mais aussi on s'est moqué de lui en mettant une robe écarlate. C'est une couleur qui est réservée pour des rois. Tu sais, un roseau pour sceptre, une couronne d'épines terrible. Et on s'est moqué de lui comme roi des Juifs. Et ça doit nous faire penser à un des passages auxquels on va se référer souvent, donc je vous invite à garder un doigt dans le psaume 22. Je vais vous mettre ça à l'écran, mais d'autres versets du psaume 22, je vais pas mettre à l'écran pour vous. Ça dit, on voit dans le psaume 22, verset 6, ça dit, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, et le mépriser du peuple. » On l'a méprisé pas mal. Pourquoi on parle de ver, là? C'est quoi l'idée, un ver? Ça sort de nulle part. C'est parce que c'est le même mot en hébreu pour la couleur écarlate. On le voit mentionner, cette couleur-là, dans le livre d'Exode, plus de 25 fois, pour décrire le temple de Dieu. Les voiles, les portes, tu sais, le morceau que le grand prêtre portait, la porte du tabernacle. Toutes ces places-là parlent de Jésus qui souffrait lui-même tous les sacrifices qui ont jamais été donnés parce que les autres sacrifices de sang couvraient, mais lui, il était en train de ôter le péché. Donc, il a dû souffrir les conséquences de tout ce qui avait nécessité ces sacrifices-là. Le mot pour écarlate est tola. Tola veut dire vert et aussi veut dire écarlate. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ce verre-là pour produire la couleur écarlate. Donc, il subit cette flagellation et parle de lui-même comme un verre écarlate qui accomplisse les exigences de Dieu. Et on a vu que la couronne a été faite avec des épines. Est-ce que vous vous rappelez la première fois qu'on entend parler des épines dans la Bible? Mais c'est à cause du péché de l'homme. Et regardez bien en Genèse 3, versets 17 et 18 et 19, ça dit, « Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Donc, c'est comme si Jésus, il subissait encore là, la malédiction qui était pas juste sur les hommes, mais sur la planète. Il prenait tout sur ses épaules. Il prend la malédiction prononcée sur les hommes en chemin vers la croix. Il est même pas encore à la croix. Tous les péchés, depuis le début du monde, il prend sur lui-même. Et sa souffrance la plus grosse était pas juste le côté physique, mais la pensée qu'il y a des gens qui vont choisir de porter la couronne ou les épines eux-mêmes. Parce que même s'il dit des mots d'appel au salut au monde entier et à Israël au complet, il y a des gens qui refusent. Mais il le fait pour qu'on n'a pas à porter cette couronne. Donc, verset 31, continuons en Matthieu 27. « Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. » Ouf! « Lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. » Il a gardé sa mission dans un focus vraiment très précise. Mais quand ils ont enlevé cette robe, imagine la douleur. Toutes ces blessures dans son corps ont été ouvert de nouveau et on a mis ses vêtements sur lui comme les prophéties exigeaient. Et c'est sûrement, écoutez bien, sûrement il a souffert plus que les autres personnes qui sont crucifiées, soit dit-on d'habitude. Parce que d'habitude, l'accusé est forcé de porter une partie de la croix, la partie transversale, lui-même. Mais lui, il est tellement affaibli, il est pas capable. Donc, c'est pire ce qu'on a fait à lui. Donc, le verset 32 nous dit, « Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. » On voit à quel point il est épuisé déjà, Jésus. Sûrement, le maltraitement était tellement intense. Mais dans son humanité, Yeshua pouvait pas porter ça, il était plus capable. Qu'est-ce que l'ennemi voulait? Il voulait que Jésus meure avant la croix, parce que en mourant sur la croix, il a accompli, et on va voir, beaucoup de prophéties messianiques. Donc, Satan a toujours voulu le faire mourir ou l'inviter à mourir avant la croix. Donc, s'il était mort en route vers la croix, ça aurait accompli les plans sataniques. Mais on fait appel en passant pour l'aider à porter cette croix-là, Simon de Cyrène. On sait que Cyrène était un lieu en Afrique du Nord, en Libye. C'était une place où beaucoup de Juifs vivaient en diaspora. Et on sait que selon le livre des Actes, il y avait une synagogue là. Et on l'appelait la synagogue des hommes libérés. Sûrement, il était parmi les Juifs qui étaient venus de partout sur la planète. Les hommes devaient se rendre 3 fois par année à Jérusalem, puis ils faisaient partie de ce groupe-là pour fêter la Pâque en Israël. Mais c'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas. Il y a beaucoup de traditions, mais Matthieu n'en parle pas. Et ce silence nous en parle beaucoup. Parce que qui est-ce que Dieu utilise pour faire son travail? Des hommes et des femmes, comme vous, comme moi. Il aurait pu tout faire lui-même, mais il choisit de nous utiliser. Nous, les croyants, pour aussi porter un certain fardeau. Pas du péché. Mais vous voyez que vous portez aussi un peu le fardeau, la croix, on va le voir, avec Jésus. On forme un genre de unité ensemble. Parce que Paul le dit bien en 2 Timothée 1:8. Il dit, « Prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu. » Mais comment est-ce qu'on peut partager la souffrance du Messie? Mais il souffre encore en voyant le monde dans la condition dans laquelle il est. On voit que beaucoup de gens souffrent même aujourd'hui. Une façon de partager ses souffrances, c'est de dire « je crois en lui ». Parce que pour plusieurs, c'est une offense. Pour moi, en tant que juive, c'était très offensif. Ça l'est encore après 46 ans. À ma famille, c'est une offense pour eux. Simon, sûrement, c'était une offense pour lui de transporter la croix d'une personne condamnée. Mettez votre nom à côté de Simon de Cyrène. Vous êtes là aussi. Il est notre partenaire dans tout ça. Mais on voit que notre souffrance devient plus vivable quand on voit qu'il le vit avec nous. Simon aurait pas eu la force si Jésus lui avait pas donné la force pour transporter 150 kilos. Est-ce que moi, je suis capable de transporter 150 kilos? Jamais de la vie. Mais cette croix-là, ce morceau transversal faisait à peu près ça, 150 kilos, plus de 300 livres. Mais c'est un grand privilège de porter la croix à côté du Messie. Il y a quelque chose là-dedans qui est dans l'évangile de Jean qui est profond. Dans l'évangile de Jean, ça dit que Jésus portait la croix seul. Mais Luc, Marc et Matthieu mentionnent Simon de Cyrène. Parce que Jean a vu dans le Fils de Dieu sa souffrance et c'était lui seul qui pouvait vraiment porter le péché de tous. Mais les autres évangiles nous donnent comme une invitation de partager cette souffrance. Donc, on doit accepter ce défi et cet honneur de marcher avec le Seigneur. On voit en 2 Timothée encore, maintenant dans le deuxième chapitre, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, il faut pas passer à côté de cette occasion. On va avancer vers le lieu de la croix et on va voir la grandeur de notre Dieu ici. Continuons en Matthieu 27, verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Golgotha, c'est le lieu où Jésus a été crucifié, notre Seigneur. Le mot vient de l'araméen qui veut dire crâne. Le mot grec, le lieu du crâne, calvaire, ça vient de là. Parce que le mot pour écran, c'est calvaire. Peut-être vous avez déjà cherché le mot calvaire dans les évangiles, vous n'avez pas trouvé, c'est pour ça. Verset 34, on voit Jésus sur la croix en train de souffrir et on lui donne à boire du vinaigre parce qu'on dit que la soif s'empare beaucoup de celui qui est crucifié et comme un acte de compassion, on lui donne à boire pour soulager la douleur. Mais Jésus l'a refusé. Deux raisons possibles. Qu'on voit, c'était du vin et il avait déjà promis de ne plus boire du vin jusqu'au jour qu'il le boirait de nouveau dans le royaume de son père, dans le chapitre précédent. Et aussi, c'était un vin aigre, donc c'était fermenté plus que les autres, donc ça contenait comme du levain qu'on mange pas pendant la Pâque juive, donc il avait pas le droit de manger ça ou de boire ça parce qu'il avait besoin d'accomplir la loi jusqu'au détail le plus moindre. Donc, c'était un acte de compassion, peut-être qu'on lui a offert à boire, mais peut-être c'était aussi un acte pour essayer de le faire descendre de la croix. C'est ce que la prophétie nous dit, parce qu'on voit ça dans un psaume messianique, pas le 22, mais ici, je vais le mettre à l'écran, le psaume 69. Versets 20 et 21, selon la traduction, ça peut être 21 et 22, vous voyez. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, j'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Avançons au verset 35. En Matthieu 27. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Je veux mettre un mot personnel là-dedans, là. En tant que fille de 17 ans, j'ai lu le psaume 22. Je vous invite de retourner, garde le doigt en 27, Matthieu 27, de retourner dans le psaume 22. J'ai lu ça après avoir lu l'évangile de Matthieu que nous regardons présentement. Et ça m'a tellement frappé. J'ai dit, comment est-ce qu'ils ont pu prophétiser jusqu'à ce point-là par rapport à ces vêtements? Mais regardez le verset 18 ici. Vous voyez le mot Yeshua, c'est son nom écrit en hébreu en bas de la diapo. Il partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. Et ils ont percé mes mains. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et on voit que c'est le mot percer, c'est le mot kara, qui veut dire creuser, mais profond, de percer profondément. C'est ce qu'ils ont fait à la crucifixion, au bras, aux mains et aux pieds de Jésus. Ça a été donné 1000 ans avant la crucifixion. Ça m'a frappée en tant que fille de 17 ans. J'ai dit, comment ça? Ils ont pu prophétiser ça avant. David a écrit ça. Incroyable, ça m'a frappée. C'est ça d'ailleurs qui a aidé à me pousser à mettre ma foi en Jésus. Comme vous allez être invités de faire après ce message ce matin. Parce qu'on voit la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Les versets qui précèdent, regardez dans le psaume 22 vous-même, c'est pas à l'écran, versets 14 et 15. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule. » Ça parle de la souffrance que une personne crucifiée vit. « Et tous mes os se séparent. » Vous voyez que c'est disloqué. « Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche. » Ça, c'est la sécheresse, hein? Comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Vous voyez la sécheresse. Tu me réduis à la poussière de la mort. On voit une douleur incroyable. Quelle angoisse, cette crucifixion. Les veines et les artères lacérées, les tendons qui sont écrasés. La douleur d'une soif qu'on peut pas imaginer, qui brûle dans notre bouche. Il faut qu'on sache tout ça, qu'on médite tout ça, parce que tout ça a été fait pour votre salut, votre salut. Pourquoi? Retournez à Matthieu maintenant, Matthieu verset 27, verset 37 maintenant. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on a écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. C'est ça l'accusation. Pilate avait besoin de l'accuser de quelque chose et comme le fait qu'il s'est proclamé roi, ça veut dire qu'il était en compétition avec César, même s'il n'y avait pas d'armée pour se défendre ou, tu sais, il a mené sa bataille tout seul, si vous voulez. Il était crucifié parce qu'il était le roi des Juifs. C'est ça qu'il est vraiment encore aujourd'hui. Il le savait pas. Il se rend pas compte de ça même aujourd'hui. Il savait pas qu'il crucifiait le roi des rois. Et tout ce qui suit nous montre que Dieu le savait tout d'avance. On voit que les prophéties suivaient leur cours parfaitement. Regardez le verset 38 maintenant. Avec lui firent crucifier deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et ça nous ramène à une autre prophétie. Tout le chapitre d'Ésaïe 53, il faut le lire en détail, mais ici, on voit le verset 12. Parce que il disait que c'était un chapitre messianique. Ils le disent, ils doivent le dire encore aujourd'hui. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a choisi, hein? Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, il est crucifié entre deux brigands, mais il meurt pour eux. Et le verset qui suit en Matthieu, le verset 39, regardez maintenant dans vos Bibles, une autre prophétie. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête. Retournez au psaume 22 dans vos Bibles, où on l'a aussi à l'écran. Le verset 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouant la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te le sauvera. Il le délivrera. Puisqu'il l'aime. C'est précisément une citation du verset 8 de ce psaume. Psaume 8. 22, il citait ça quand il criait ça à Jésus. Continuant dans le verset 41 de Matthieu 27, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. On va voir que c'est un mensonge. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Ceux qui disent que Jésus a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu, voilà. Une des autres places, il y a plusieurs places. Donc, la parole de Dieu du psaume 22 est sortie de la bouche des leaders religieux. Les prêtres, les scribes, les anciens, tous ceux qui l'ont condamné sans qu'il s'en rende compte. Et il mentait parce que lui, il est descendu de la croix et ils n'ont pas cru en lui. Il a fini par sortir de la croix, mais est-ce qu'ils ont cru quand ils ont dit qu'il descend de la croix et nous croirons en lui? Ben non, ils l'ont pas fait. La porte était ouverte pendant 40 jours après sa résurrection, mais ils n'ont pas cru, même à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de personnes qui l'attaquent? Les passants, les soldats romains, même les brigands à côté de lui, les leaders religieux, pourquoi? Ils ont tenté de descendre de la croix. Hein? Parce que c'est la dernière tentation. Le diable avait échoué dans tous ses efforts de faire mourir avant ou mourir autrement. Mais là, c'est la dernière fois qu'il essaie. Parce que s'il meurt pas sur la croix, il va pas accomplir les prophéties. Donc, il veut pas que le Messie meure sur la croix. Donc, c'est pour ça que ça arrive. Mais là, Dieu passe à l'acte encore. Et puis, vous voyez le verset 45, on peut plus le voir. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Toute la terre. Pas juste à Jérusalem. Toute la planète au complet. Wow. Ça, c'est à midi. Ça, c'est quand le soleil est le plus fort, surtout au Moyen-Orient, laissez-moi vous dire. Jésus, ça faisait déjà 3 heures qu'il a passé sur la croix, parce qu'on l'a crucifié à l'heure du sacrifice pour la Pâque, qui était à 9 heures le matin. Et puis, il va mourir à l'heure de du deuxième sacrifice, qui est à 3 heures de l'après-midi. Donc, toutes ces insultes et les tentations ont duré 3 heures. Okay? Donc, c'était une heure importante pour les Juifs à l'époque, parce que c'était le moment que les rabbins avaient demandé aux Juifs de se débarrasser de tout le levain, tout le pain qu'ils avaient chez eux. Ils devaient chercher dans leur maison à droite, à gauche. Les femmes juives jusqu'à aujourd'hui, font leur ménage du printemps et de fond en comble. Chaque tiroir, chaque garde-robe, chaque place doit être vraiment nettoyée de toute miette de levain. Mais comment veux-tu chercher ça quand il fait une noirceur totale? Tu ne peux pas, parce que tout le levain était déjà sur Jésus, sur la croix. Je vais vous donner l'arrière-plan de cette sixième heure. En Exode 12, on voit l'histoire de la Pâque et l'agneau de la Pâque, parce que Dieu a ordonné Israël à enlever le levain. Parce que ça dit, verset 15 de Exode 12, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. » Ça veut dire faut faire le grand ménage. Donc, fallait pas manger du levain, parce que c'est un symbole de quoi, le levain? Le péché. C'est la première fois qu'on mentionne le levain, c'est ici en Exode 12. Donc, ça dit que le premier jour, il faut l'enlever. C'était quel jour? C'était le jour de la crucifixion. Même, ils disent dans les écrits juifs, le Talmud, qui est pas des écritures, mais ils disent le jour de la... Non, c'est pas à l'écran. C'est pas là. Ils disent que en Sanhédrin 43, que Jésus a été crucifié à la veille de la Pâque. Parce que c'est marqué dans leurs écrits... La veille de la Pâque, ils ont suspendu Jésus le Nazaréen et ils l'ont suspendu à la veille de la Pâque. Donc, il le mentionne 2 fois. Donc, les gens avaient décidé quel jour le levain devait être ôté et brûlé, donc les rabbins. Et c'était à la sixième heure. C'est eux qui ont choisi quelle heure. C'était pas marqué dans Exode 12. le 14 de Nissan, c'est la date biblique que Jésus a été crucifié. Et c'est là où on est, à Matthieu 27 maintenant, quand Jésus a pris tout le levain du monde entier sur ses épaules. Et tu vois, les Juifs essaient de trouver ça. Voyons. Et là, vous voyez dans la prochaine diapo, en Talmud, Pesachim. Pesachim, ça veut dire de la Pâque. C'est des écrits qui ont été faits sur la Pâque. Il est interdit de manger du pain au levain à partir de quand? La sixième heure. Vous voyez. C'est pas tout à fait. OK. C'est ça, oui. Il est interdit de manger du pain à partir de la sixième heure et plus loin du 14 du Nissan que le temps de la recherche, c'est-à-dire le levain, commence à 7 heures. Donc, vous voyez qu'il devait être en train de le chercher pendant qu'il faisait une noirceur totale. Mais qu'est-ce qu'il devait faire avec le levain? Comme s'ils en avaient trouvé, les autres années, ils en ont trouvé. Il devait sortir de la ville et le brûler. Brûler parle de jugement. Qui était déjà en dehors de la ville, en train de subir le jugement? Jésus. Yeshua était déjà là, il le faisait pour eux. C'est extraordinaire que Dieu a choisi de mener une noirceur sur toute la planète pour les rappeler. Le levain est déjà en train d'être brûlé, déjà en train d'être jugé. Il prend déjà le levain du péché pour vous. Mais la noirceur va encore plus loin dans le temps que ça. Vous vous rappelez peut-être, hier soir, j'ai écouté un peu le gros film, Les 10 commandements en anglais, qui a passé à l'écran. Ça m'a étonné de voir combien de choses qui n'ont pas eu correct dans le film. Mais vous rappelez les 10 plaies sur l'Égypte. Juste avant que Israël soit délivré, avant la délivrance, il y avait 10 plaies, et puis ça représentait des dieux différents des Égyptiens, les petits dés, dieux, OK? Et la dernière plaie, c'était la mort du premier-né. C'est ça qui a permis la délivrance. Donc, vous voyez, Dieu a donné son premier-né, Jésus, à la Pâque. C'est pour le salut d'Israël, pour leur délivrance. Mais qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui était la neuvième plaie? C'était la noirceur sur toute la planète. Comme la noirceur a précédé la mort du Messie. Combien de temps est-ce que la noirceur a perduré en Égypte? OK? Il y a 2000 ans avant cet événement. Exode 10 nous le dit à l'écran, ça dit « Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant combien de temps? 3 jours! Pendant 3 jours qui correspond aux 3 heures entre la sixième heure et la neuvième heure que la noirceur était sur toute la planète après laquelle, bon, Jésus a donné son esprit. Donc, la crucifixion, c'est une reconstitution de la Pâque juive. C'est la même séquence. La croix que ce qui s'est passé en Égypte. Tu sais, l'agneau pascal a été sacrifié, le sang appliqué sur les portes. Il y avait 3 jours de noirceur sur toute la terre et le jugement pour ceux qui n'avaient pas le sang. Ça doit nous rappeler, tu sais, le lien et nous faire voir que il faut aller à la croix et recevoir le sacrifice de Jésus pour nous. Vous voyez ce que Dieu a déjà dit par rapport au sacrifice en Exode 12. Exode 12, c'est le chapitre par excellence sur l'Exode. La diapo nous dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et vous voyez, le Tav, c'est une lettre hébraïque, vous voyez en haut à gauche et à droite. Ça, c'est le mot qui est utilisé des fois pour la croix. Parce que dire le mot croix est tellement difficile pour les Juifs. On parle d'une Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Ce qui correspond à l'oméga, ce serait la tave, qui est faite dans cette forme-là, une forme de croix. Donc, voici le salut qu'il offre à tous. Et il vous offre aujourd'hui. Et on vient à ce moment unique dans l'histoire quand Jésus a prononcé les mots que vous voyez dans chapitre 27 encore de Matthieu, verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Encore là, si vous retournez dans le psaume 22 où vous avez mis le doigt, vous voyez, non, c'est pas à l'écran. Ah oui, c'est aussi à l'écran, c'est vrai. Vous voyez mais dans vos bibles, vous voyez que c'est marqué, c'est ça le premier verset. C'est le premier verset du psaume de la crucifixion, le psaume 22, cité plusieurs fois. C'est celui qui dit qu'ils ont percé mes mains, le mot cara, creusé. C'est là où il parle qu'il est un ver et non un homme. On a déjà vu ça. C'est là où il a vocalisé sa souffrance quand il a dit qu'il est comme l'eau qui s'écoule et tout ça, et qui avait les os disloqués. Mais là, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment comprendre ces mots-là? Parce que Jésus, il portait tout le péché de toutes les personnes depuis Adam jusqu'à la fin de l'humanité. Et tous nos péchés à nous, chacun de nous. Il a été séparé et coupé de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit ces mots-là. Et comment ça s'est arrivé? On peut pas le dire. On peut pas imaginer. Mais c'est tellement une rupture inimaginable quand la sainteté a permis d'être submergée par la noirceur. Pour nous sauver. C'est la seule fois dans toutes les prières de Jésus qui utilise le nom de Dieu, elle. Il utilise d'autres noms pour Dieu, mais pas parce qu'il appelait toujours mon Père ailleurs. Mais ici, il appelle Dieu, elle, qui est le mot hébreu. Elle, c'est le Dieu de puissance. C'est celui qui est fort et le tout-puissant, aussi le saint. Parce que Dieu, le Père, était le juge qui recevait le paiement pour nos péchés par Jésus. C'est pour ça que Dieu, le Père, est devenu elle, est devenu le juge quand il a vu les péchés qui prenaient tout son fils. Cette douleur, Monsieur Gabizon dit, il est convaincu pour le Père et le Fils était tellement puissant, c'était au-delà de toute souffrance physique. Jamais Jésus avait vécu une telle séparation. Et ici, il dit ces mots dans toute son humanité. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit ces mots-là? Regardez dans le verset 48 dans Matthieu 27. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui est remplie de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donne à boire. Ça, c'est la deuxième fois qu'on essaie. Et tout de suite, on l'a fait. Mais c'est quoi, pourquoi il est pressé? Parce que peut-être c'est encore un effort satanique de lui faire boire le vin comme il devait pas faire, comme on a vu. Mais lui, il a fait, non, il a choisi autre chose. Jésus a choisi le moment de sa mort. Et il a rendu son esprit lui-même. Il a décidé. Et Jésus, verset 50, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Il avait déjà dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Là, il était déjà ressuscité spirituellement. Il avait déjà eu la victoire à ce moment-là. Parce qu'il l'appelait pas Élie, mais Père. Donc là, il avait déjà eu la victoire. Et là, il a crié. Et il a choisi de mourir là. C'était son choix. Parce que c'était l'heure du deuxième sacrifice de la journée, 3 heures de l'après-midi. Il était en contrôle total. Vous voyez, l'évangile de Jean nous dit ce qui s'est passé. On voit Jean 19, versets 29 et 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il avait terminé sa mission au total 100% faite. Mais ça dit qu'il a pris le vinaigre. C'est quoi l'idée? Pris. Oh, est-ce qu'il a bu? Ah, intéressant. Le mot, dans le Nouveau Testament veut dire qu'il a saisi. Ça ne veut pas dire qu'il a bu. C'est pas le mot qui est utilisé pour boire. Jésus a pas bu. Mais il a reçu quoi? Il a reçu le jugement de Dieu. Comment comprendre ça? Mais le sacrifice qu'on avait fait la veille, on a versé du vin sur l'agneau. Peut-être c'est ça qu'on a fait à Jésus lors du dernier moment de son sacrifice, quand il a rendu son âme. Il a reçu, il n'a pas bu, mais il a reçu le jugement. Et regardez ce qui s'est passé. Le moment que Jésus est mort, vous voyez versets 50 à 53, et là, c'est des effets de la mort. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Il y a 14 signes, on va voir, pas aujourd'hui, mais on a déjà compté 14 choses que Dieu a fait pour montrer à quel point cette mort était importante pour nous. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient déjà morts ressuscitèrent, mais ils sont sortis après la résurrection de Jésus. Donc, ça a ouvert vendredi saint, mais ils sont sortis juste dimanche matin. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc, tout le monde aurait dû vivre ces signes extraordinaires. On voit que le voile du temple a été déchiré. On voit que c'est Dieu qui l'a déchiré de haut en bas. Et on voit en Hébreux 10, on voit ça décrit. Et on voit aussi une image, on a fait en cliquant deux fois sur la diapo, vous allez voir le voile déchiré devant vos yeux. Ça dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Parce que le voile est devenu un symbole de sa chair. Parce que uniquement Jésus pouvait ouvrir, comme vous voyez, le voile est ouvert maintenant. Et il a fait par sa mort. Maintenant, le chemin est libre pour aller à Dieu. Et pour entrer au lieu très saint que vous voyez à gauche, c'est toujours par le nom de Yeshua, uniquement le nom de Yeshua, un nom donné aux hommes, et par son esprit. Et dans la loi orale, vous voyez l'épaisseur de la voile, c'est un peu difficile à voir à l'écran peut-être, mais dans leur loi orale, ça dit que c'était à peu près 4 pouces d'épais ou 10 centimètres. Donc, imaginez le bruit que ça avait fait. Et c'est ça qui s'est passé à la 9e heure, après ce sacrifice à 3 heures. Et c'était un temps où on a changé les 12 pains pour des pains frais. Quand même, les pains sont restés frais une semaine de temps, comme nos pains ne resteraient jamais frais une semaine de temps à la chaleur. Mais quel miracle hebdomadaire se passait dans le temple. Et puis aussi, il y avait un dernier son de trompette qui annonçait le sabbat. Et quel sabbat? Tu sais, la terre a tremblé. Tout le monde savait que quelque chose s'est passé. Les rochers se fendirent. C'est au-delà d'un tremblement de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était un signe de la colère, du jugement de Dieu. Nous savons, à partir du livre du petit prophète Nahum, que c'est un signe de la colère de Dieu. En Nahum 1:5, ça dit, « Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent, et devant sa face, la terre se soulève et le monde et tous ceux qui y habiteront. » On sait que quand les collines se fondent, c'est la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu est tombée sur le Messie. Combien de personnes sont mortes à cause du tremblement de terre et tous ces rochers? Personne. Parce que Jésus a tout pris lui-même. Je veux juste résumer les résultats de la mort du Messie. Je vais juste vous donner des titres, mais il y a toute une étude sur chacune des 10 que je vais vous dire. Ça représente la fin de la loi de Moïse. C'est le jugement de notre nature pécheresse. C'est la base pour le pardon et d'être purifié. La mort est la base pour que le jugement divin tombe sur lui et pas sur nous. Ça enlève tous les péchés avant la croix. Ça a mis en défaite toutes les principautés et les puissances qui ont eu un échec à ce moment-là. Ça purifie le tabernacle qui est au ciel, que Satan avait pollué. C'est la base pour notre paix avec lui. C'est la base pour le salut national d'Israël un jour futur et ensuite l'établissement du royaume messianique. La mort de Jésus accomplit toutes ces choses-là. Et je finis avec cette illustration-là que M. Gabizon a trouvée. On ne doit jamais laisser tomber cette information-là et laisser ça passer à côté de nous comme si ce n'était pas important pour nous. Il y a eu dernièrement une collision de train, dernièrement même dans les nouvelles. Mais il y en a eu un dans l'histoire et avant la technologie qui aurait dû empêcher ce qui vient d'arriver. Et on a fait une enquête. Tu sais, la personne qui devait signaler qu'un train venait, l'ingénieur, tout ça là. Et c'est celui qui donne les signaux a dit, j'ai montré un drapeau rouge pour dire au train d'arrêter. Mais l'ingénieur a dit non, le drapeau était blanc. Qui veut dire, tu sais, toute vitesse vers l'avant. Comment expliquer ça? On a trouvé le drapeau. On a montré ça comme une évidence. C'était un drapeau rouge, mais c'était tellement déteint dans le temps que d'une distance, ça paraissait comme blanc. Monsieur Gabizon dit, soyons pas comme ce drapeau déteint. Renouvelons notre pensée dans le Messie, pour qu'on puisse marcher à côté de Jésus. Arrêtons quand on voit le drapeau rouge, quand on voit le sang de Jésus et acceptons d'être changés par lui pour toujours. Joyeuse Pâques.
Est-ce que tu pourrais allumer, Gilles, la lumière pour que je voie mes petites notes ici? Merci, Jackie. On va avoir la chance, l'honneur, le privilège de continuer avec toi les deux prochains mercredis d'enseignement sur la résurrection. Oui, 1, 2, 1, 2. Je vais juste vérifier, on me dit qu'il y a mon micro ici. Donc, on va avoir la chance de continuer avec toi sur la résurrection dans nos mercredis d'enseignement. Donc, merci beaucoup, Jackie. Je suis content qu'on ait parlé de la croix comme ça, puis j'ai aimé de la manière que tu as commencé en nous parlant que le point central de la croix, c'est l'amour. Puis quand on parle de souffrance, on parle d'abord du cœur de Dieu qui a souffert pour nous. Tu sais, Jésus-Christ qui a souffert, mais le Père qui a donné son Fils. Puis Jésus, il disait, je m'en vais rejoindre mon Père, puis il disait à ses disciples, il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc Jésus est venu nous révéler comment notre Père nous aime. Puis ce matin, je marchais avec mon chien autour du quartier à l'extérieur, puis je pensais à ma relation avec Dieu, tu sais. Puis je me demandais si j'avais cette laisse-là autour du cou. Est-ce que c'était comme ça que je voyais ma relation avec Dieu? Quand je marche avec mon chien, dans le fond, je m'attends qu'il marche au pas. Tu sais, je suis très, très rigoureux. Mon chien, il sait que je suis très, très constant. Il faut qu'il marche au pas, tu sais. Puis des fois, son instinct l'amène à sentir les autres petits chiens qui ont passé avant lui, tu sais. Fait que je le fais marcher au centre de la rue pour le garder de lui-même, là, puis pour que j'aie une marche agréable, tu sais. Fait que j'ai des attentes sur lui, tu sais. Puis là, ça fait 2 jours que je marche, puis hier, j'ai marché 2 fois, puis là, on dirait qu'il faisait pas arrêt de pantoufler. D'habitude, il est toujours en avant de moi. Là, il est comme en arrière. Je pense que je vais lui donner une pause, tu sais. Je vais l'amener marcher demain, après-demain à la place, tu sais. À chaque fois que je rentre à la maison, je lui donne une récompense. Fait que si je n'en donne pas, je me demande pourquoi il me regarde puis il branle la queue. Puis il est toujours en train de me regarder puis il branle la queue. Puis je suis comme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est vrai, la récompense. Tu sais. Fait qu'il marche à la récompense. Tu sais. Le Père nous aime. Puis il nous l'a montré. On l'a vu à matin à quel point le Père nous aime. Comment Jésus-Christ nous aime, le Fils de Dieu. Tu sais. Puis quand je pensais à ma relation avec Dieu, je me disais, Est-ce que ma relation avec Dieu, c'est juste avec le juge de l'univers? Parce qu'un matin, on a appris qu'il y avait un juge et qu'il est en colère contre le péché, tu sais. Est-ce que je vois juste la relation avec Dieu comme étant ce maître-là qui doit être obéi? Parce que c'est vrai, il a le droit d'être obéi, c'est mon maître. Tu sais. Puis il y a une similitude entre ce que je voyais ce matin. Hein. Puis il dose les épreuves aussi. La Bible nous dit qu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. C'est tu sais. Un peu comme mon chien, je vais lui donner une pause demain, je vais revenir après-demain, on va continuer à marcher ensemble. Tu sais. On va marcher ensemble, je donne une pause, tu sais. Est-ce que Dieu me donne des récompenses aussi, si on le sert? Certainement, certainement. Mais il y avait certaines dissemblances, puis quand je m'échangeais ma place avec mon chien, je réalisais que non, Dieu n'est pas seulement un maître qui a le droit d'être obéi, mais il est aussi un père qui nous aime, qui pourvoit, puis à matin, on voit comment il a pourvu d'un sacrifice pour le péché, tu sais. Puis ça me ramenait à la parabole du fils prodigue, puis je réfléchissais à ça, puis je voyais... dans la parabole de Luc 15, il y a comme trois histoires qui sont données. Une pièce de monnaie qui a été perdue par négligence, une brebis qui a été perdue par sa bêtise, puis un fils qui s'est perdu par ses choix. Puis dans les trois histoires de la parabole, on voit la joie de retrouver ce qui a été perdu. Puis Dieu, il ne nous tient pas en laisse. Il ne nous tient pas en laisse, puis il ne nous dit pas « je t'empêche de faire ce que je t'interdis ». Le Père, il permet qu'on ne l'aime pas, qu'on ne veuille pas le suivre, qu'on ne veuille pas marcher avec lui, pour qu'on puisse vouloir marcher avec lui aussi. Puis ça m'a ramené à ce fameux verset que tu as parlé dans Ésaïe 53, Jackie, qui dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait ses propres voies. Puis tu sais, dans le monde, qu'est-ce que tu vois? Ceux qui suivent leur propre voie, là, ceux qui sont célébrés, c'est ceux qui sont plus vite, plus beaux, plus fins. C'est les champions. C'est eux autres qu'on célèbre. Puis qu'est-ce que tu vois dans la parabole du fils prodigue? Tu vois que le père, lui, il célèbre pas les plus forts, les plus vite, les plus intelligents, les meilleurs. Il célèbre ce qui était perdu puis qui a été retrouvé. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est important? C'est de voir qu'on a un Père qui nous pardonne. On a un Père qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ comme un paiement pour nos péchés. La Bible, elle nous dit que quand on était ses ennemis, Christ est mort pour nous. Le fils prodigue, il n'y avait plus une scène, il n'y avait plus de place où aller rester, il était abattu, il n'y avait plus rien, puis... Le Père l'a célébré. Il aurait pu dire à son frère, hey, sais-tu quoi? Premièrement, tu m'as considéré comme mort, puis tu as déjà pris ton héritage, tu sais. Fait qu'on pourrait peut-être parler de ça. Ensuite de ça, est-ce que tu sais toute la job que ça nous a laissé quand que ton frère et moi, on a repris toute ta job, là? Puis, on va voir si tu démontres un certain repentir, puis une conformité, puis si tu rentres dans les règles de la maison, ben là, on fera une fête, tu sais, pour toi. Non, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il a fait une fête en son honneur. Quelqu'un a dit dernièrement, puis ça m'a frappé dans une conférence, ça a dit, l'ennemi de l'intimité, on penserait que c'est l'inimitié, hein, mais elle a dit, c'est la conformité. Dans sa conférence, elle expliquait que quand quelqu'un se conforme à tout ce que l'autre s'attend de lui, elle n'est pas obligée d'avoir une intimité parce qu'elle a comme rencontré le standard de tout ce qui est attendu de elle. Puis la personne, elle disait que l'ennemi de l'intimité ou de l'appartenance, c'est la conformité. Alors, Dieu n'a pas attendu qu'on soit conforme pour nous montrer son amour. À cause qu'on avait brisé sa loi, parce qu'on avait péché contre lui, il est venu, il est mort sur la croix, il a été puni pour nous à notre place, et c'est comme ça qu'il nous montre son amour, quand on était encore ses ennemis, quand on suivait encore nos propres voies. Le chapitre d'Ésaïe qui dit qu'on suivait nos propres voies, le péché de nous tous est tombé sur lui. Puis le péché, essentiellement, c'est d'avoir choisi nous-mêmes nos propres voies au lieu de Dieu, hein? Comme un peu comme le fils prodigue, c'est d'avoir détourné notre cœur de Dieu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Je t'aime, je suis mort sur la croix pour toi, puis je suis venu réparer ce qui a été brisé. » Et le frère du fils prodigue, lui, s'était conformé à tout. Écoute, moi, père, j'ai pas été manger ton bien avec des prostituées, j'ai pas fait la débauche, j'ai assisté, j'ai même compensé pour mon frère qui a quitté, tu sais. Puis pour lui, tu fais une fête, puis pour moi, tu fais rien. Puis le père de lui dire, n'importe quand, on fait un party pour toi. Pourquoi? Parce que tu es mon fils puis que je t'aime. N'importe quand, tout ce qu'il y a ici, c'est à toi. Fait qu'on va faire le party n'importe quand, mais pour le moment, ton frère était perdu, puis là, il a été retrouvé. Le contraire de l'intimité, c'est la conformité. Et Dieu, il n'attend pas qu'on ait une vie parfaite là, pour venir à lui. Il veut qu'on vienne tel qu'on est. Puis il est riche en pardon. Il l'a montré à la croix. Le Père nous aime, mais nous, on a suivi nos propres voies. On a péché contre lui. Puis on a besoin d'être pardonné. À matin, je pense qu'il n'y a pas meilleure description de ce que Jackie nous a décrit de la punition que méritaient nos péchés. Regardez à la croix, c'est les punitions que méritaient nos péchés. Regardez à la croix, vous allez voir un juge, mais vous allez voir un père aussi. Le juge qui est pleinement satisfait de la peine qui a mérité nos péchés, mais le père qui voit son fils souffrir, hein, qui est touché par ça, mais le père qui nous aime, nous, puis veut nous réconcilier avec lui. Puis ce qu'on a besoin de faire, alors, c'est enregistré aussi, donc ça va être sur Facebook. On a besoin d'accepter qu'il y a eu un paiement qui a été fait pour nous, que Christ a donné sa vie pour nous. Et on a besoin de comprendre que de suivre nos propres voies puis de ne pas marcher avec lui, c'est l'essence de notre péché. Puis comme on n'est pas au bout de notre laisse, Dieu va nous laisser aller jusqu'au bout de nos voies si on veut. On n'est pas en laisse avec lui. Ben, c'est pas avec une laisse qu'on va revenir avec lui. Fait qu'il y a personne qui va rentrer au ciel et va dire, maudine, je suis arrivé au ciel contre ma volonté, tu sais. Fait que dans le fond, on n'est pas contraint d'être sauvé de nos péchés. Donc, la dette, elle est soit sur Christ, soit sur moi. Puis Dieu, qui est un gentleman, il nous forcera pas dans un amour contre notre volonté. Il va nous demander, acceptes-tu l'acquittement de ta dette? Et donc, ma dette, elle est soit sur moi, soit sur Christ. Dieu, de son côté, il m'a dit qu'il a été réconcilié avec moi. Ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'il faut pour que je puisse être réconcilié avec lui. Maintenant, c'est à moi d'être réconcilié avec le Père. Puis de dire, ben Seigneur, sais-tu quoi? Je peux pas dire que j'ai toujours réussi. Plus j'avance avec Dieu, plus que je réalise mon indignité. Puis... je ne peux pas être dans une position de mérite face au juge de l'univers, celui qui a le droit d'être obéi. Je ne peux pas dire que je t'ai aimé de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon être, qui est le premier commandement. Je ne peux pas dire non plus que j'ai aimé mon prochain comme moi-même. Quand je lis ta parole, je vois que si un homme a convoité une femme, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, je ne peux pas dire que je ne suis pas un adultère. Celui qui maudit quelqu'un avec sa bouche, c'est le meurtrier de son frère, Jésus nous disait. Mais Seigneur, je ne peux pas dire que je ne suis pas un meurtrier. Je ne peux pas dire que sur l'autoroute, je me rappelle, un certain soir d'avril, je ne peux pas dire que je n'ai pas tué quelqu'un avec ma bouche. Je me rappelle. Donc, celui qui maudit avec sa bouche est comme un meurtrier. Puis celui qui a péché contre la loi, a péché contre un commandement, a péché contre toute la loi. Fait que je réalise, Seigneur Dieu, que je ne peux pas être dans de bons comptes avec toi. Mais à la croix, je ne vois pas juste un juge. Je vois un père aimant qui donne son fils pour moi. Fait que on fait business ensemble en acceptant qu'il y a une dette envers ce juge de l'univers, mais en acceptant que cette dette-là a été payée par Christ. Et les dernières paroles que Jésus a dit sur la croix, c'est tétélestai en grec. On allait sur le marché, puis quand on achetait quelque chose, on disait tétélestai. Ça voulait dire tu ne dois plus rien, c'est payé. Jésus-Christ nous a dit, je vous relâche de votre dette. Ou pas je vous relâche, mais il a dit, le paiement est accompli. Tout est payé. La facture est complètement payée. Mais pour être relâché de cette dette-là, j'ai besoin, moi, de faire la paix avec Dieu en reconnaissant qui est celui qui a été envoyé par Dieu, le Fils de Dieu qui a été envoyé dans le monde. Il est lui-même Dieu fait homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, Jackie, jusqu'à la croix, elle nous dit, il n'a même pas voulu prendre le vin qui était à la journée de la... la fête de la Pâque, il fallait avoir enlevé tout le levain, tu sais. Il est jusqu'à au iota, jusqu'au point à virgule, il est venu payer pour chacun d'entre nous. Il est venu accomplir la loi. Il est mort sur la croix. Le troisième jour, c'est ce qu'on célèbre, le dimanche de Pâques, troisième journée, il est ressuscité des morts pour nous préparer une place. Puis la seule chose qu'on a à faire, c'est quoi? C'est faire la transaction. Puis croire qu'il est Dieu, qui est mort sur la croix, qui a été ressuscité le troisième jour. On va fermer les yeux ensemble. Je vais nous conduire ensemble dans une prière. Dieu, il voit beaucoup plus à votre foi qu'aux paroles qui sortent de votre bouche, mais on va exprimer à Dieu à quoi ressemblerait une prière qui est de faire la paix avec Dieu. Vous nous écoutez sur Internet, vous êtes aussi ici. Vous n'avez jamais fait cette prière-là ou ce geste-là pour dire il y a un jour avant puis un jour après où j'ai fait cette transaction-là avec Dieu, de faire la paix avec Dieu. Faites cette prière avec moi. Répétez à voix haute si vous voulez. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu es venu sur la terre pour vivre une vie parfaite et mourir de la croix pour être puni à ma place. J'accepte que tu es Dieu et que tu as fait cela pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Amen. Je vais prier pour ceux qui auraient fait cette prière-là. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les gens qui écoutent cet enregistrement ou encore quelqu'un ici qui a fait cette prière-là pour la première fois. Seigneur, je te prie que tu puisses continuer à montrer ton amour et ta grâce, que tu puisses les aider à voir que tu n'es plus dans le tombeau et ni sur cette croix-là non plus. Tu es ressuscité puis tu veux une relation avec chacun d'entre nous. Merci pour ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour les chants. Merci, Seigneur, pour la préparation de Jackie. Seigneur, elle s'est préparée beaucoup pour ce message-là, Seigneur Dieu. Puis on est bénis de notre relation avec Jackie. Puis Seigneur, je te prie pour cette journée. Bénis-nous, Seigneur Dieu, puis qu'on puisse partir avec l'idée que tu nous tiens pas en laisse. T'es pas juste un père qui veut la conformité, mais tu veux notre cœur, Seigneur Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à notre sœur Ginette de faire les annonces. Je vais terminer avec aussi une annonce.